cette réouverture de dossier.
Nous vous mettons en liaison avec la police.
Cette décision n'est pas conforme
ou la gendarmerie
à l'idée
nationale.
Que je me fais de la justice.
14h, 15h, Café Crime sur Europe 1. Jacques Pradel.
Bonjour à tous, bienvenue. Le standard de Café Crime est ouvert au 01 42 32 15 15 pour les questions et les réactions par téléphone. Europe1.fr si vous êtes sur Internet et si vous préférez nous envoyer un courriel. Et c'est une émission consacrée au milieu du grand banditisme et au système mafieux en Corse à l'occasion d'une nouvelle édition revue et augmentée d'un livre qui était déjà une bible, Les Parrains Corse. Il vient d'être donc republié chez Fayard. Les deux auteurs de ce livre enquête, les journalistes Jacques Folloroux et Vincent Nouzy sont les invités de Café Crime. Avec eux, nous reviendrons tout à l'heure sur les racines d'un système qui s'abrite souvent derrière le paravent du nationalisme ou de l'indépendantisme, mais aussi la protection d'amis haut placés pour contrôler des activités criminelles en France, bien sûr, en Corse, évidemment, en Afrique et en Amérique latine. En Corse même, d'ailleurs, des règlements de comptes et des guerres de clans continuent de faire rage, elle donne lieu à de véritables tueries dont les auteurs et les commanditaires profitent, on peut le dire, d'une certaine impunité. Mais tout de suite, il faut raconter l'histoire d'un personnage mythique dont la mort accidentelle, il y a 2 ans et demi, le jour de la Toussaint 2006, a marqué la fin d'une époque et le début d'une guerre de succession qui continue à faire de nombreuses victimes aujourd'hui. Cet homme s'appelait Jean-Baptiste Jérôme Colonna, né en 1939 à Sartène. Tout le monde l'appelait Jean G. C'était, paraît-il, le dernier parrain corse à l'ancienne.
Café Crime.
Il est très rare, pour ne pas dire exceptionnel, qu'un membre du grand banditisme s'exprime publiquement sur sa vie et ses activités devant un journaliste. C'est pourtant ce qu'a fait Jean-Jérôme Colonna en accordant une longue interview à l'écrivain Gabriel Xavier Cuglioli. Dans cet entretien publié le 8 août 2002 dans le mensuel Corsica, il démentait être un parrain et il dénonçait, je le cite, « le chapeau immense, l'expression est de lui, dont la coiffait la rumeur insulaire. On dit que nos compatriotes sont des mafieux silencieux. Je trouve, moi, disait-il aux journalistes, qu'ils parlent à tort et à travers. Ils cherchent surtout des logiques en tout. Ils ne parviennent pas à penser que le hasard et le désordre sont les grandes causes qui président au drame de notre île. » Fin de citation. Dès le début de l'article, Jean G. Colonna revenait sur un événement qui a bouleversé sa vie définitivement, la mort de son père, Jacques Colonna, assassiné alors qu'il avait à peine 16 ans. C'était le lundi 18 juillet 1955 à Ajaccio à 8h30 du matin. Ce jour-là, le jeune Jean G. décide d'accompagner son père, négociant en huile d'olive à Ajaccio, à bord de la traction avant qui appartenait à son oncle Jean Colonna, dit Jean-Jean. Jean-Jean, c'était une figure dans le banditisme corse. Il avait été aussi une figure de Montmartre avant de rentrer chez lui, en Corse, où il était devenu, au début des années 50, le maire de son village natal, Pila Canale. On le savait proche du clan de Joe Renucci, de Marcel Francisci et de Nick Venturi, qui s'était illustré dans la fameuse affaire du Combinassi, un cargo qui faisait la contrebande de cigarettes en Méditerranée. Et le détournement de la cargaison de ce bateau avait donné lieu à une véritable vendetta dont son oncle avait été victime 5 mois plus tôt. Pour échapper à des tueurs lancés à ses trousses, il s'était réfugié sous une voiture dans une rue d'Ajaccio, mais ses jambes, qui dépassaient, avaient été littéralement hachées par une rafale de mitraillette, le laissant handicapé à vie. Et on peut penser que les activités sulfureuses de cet oncle estropié ont causé la mort de Jacques Colonna et du même coup fait basculer le destin de Jean G. Le 18 juillet 1955, donc, le jeune homme de 16 ans profite du voyage de son père à Ajaccio pour aller faire souder une pointe de flèche de son fusil sous-marin. Mais au moment du retour, son père lui dit de prendre un bus plutôt que de rentrer avec lui en voiture. Prémonition, on ne le saura jamais. Jacques Colonna remonte dans la traction, c'est alors que deux passants s'approchent de lui, des coups de feu éclatent. La suite, Jean G. la raconte avec beaucoup d'émotion au journaliste de Corsica, je le cite. « J'ai couru et je suis arrivé devant la voiture, mon père était là, avec deux trous apparents dans la tête. J'ai vu les assassins s'enfuir et monter dans un véhicule, une Matford. Ils étaient déguisés en touristes. » Et il continue « Savez-vous ce qu'est la perte de la lumière en plein soleil ? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé ce jour maudit. Le soleil est devenu noir et nous sommes entrés dans le malheur. Des voisins sont arrivés, ils m'ont aidé à sortir le corps de mon pauvre père. Ma mère hurlait. Ces images ne m'ont plus jamais quitté, fût-ce une seule seconde de mon existence. » Dès lors, Jean G. Colonna ne songe plus qu'à une chose, la vengeance, et il explique, je le cite encore, « Du jour où mon père a été enterré, je n'ai pensé qu'à ça. À l'âge de 21 ans, celui de la majorité légale, j'ai appris de la bouche d'un ami que certains des assassins de mon père étaient toujours vivants. Alors je suis allé voir mon oncle pour lui demander la raison de cette situation et lui dire que j'allais venger mon père. Mon oncle m'a regardé sans parler, puis il m'a demandé si j'avais bien réfléchi. Je lui ai répondu que oui. Il a seulement incliné la tête et m'a murmuré que je m'engageais dans la voie la plus difficile qui soit, mais que, si c'était mon destin, je devais l'accomplir. Ce devoir m'a pris 10 ans de ma vie, poursuivait Jean G. Colonna. Pendant cette très longue période, je me suis levé chaque matin en me demandant comment j'allais honorer le serment que je m'étais intérieurement fait devant le corps de mon pauvre père. Jean G. Colonna reconnaît donc dans cet article avoir endossé très jeune les habits d'un tueur. Il ajoute « Mais je n'ai jamais tué que pour venger mon père, jamais pour de l'argent, vous m'entendez ? Jamais. Ceux que j'ai tués savaient ce qu'ils risquaient en tuant mon père qui était innocent dans l'affaire du Combinassi. Je ne suis ni fier ni honteux de ce que j'ai fait. Je devais agir ainsi pour me regarder dans une glace chaque matin que Dieu faisait. »
Café Crime.
À partir de l'assassinat de son père, Jean G. Colonna présente d'ailleurs cette date comme une seconde naissance. À partir de là, le destin s'accomplit donc, et il raconte au journaliste qui l'interroge comment, selon lui, le reste de sa vie n'a été qu'une conséquence de cette vengeance. Il explique par exemple qu'un de ses ennemis, donc un ami des assassins de son père, s'était vengé en le dénonçant à la police américaine comme un membre de la French Connection, un trafiquant de drogue. Il prend la fuite, non sans avoir auparavant réuni ses enfants, je le cite encore, « Je leur ai raconté, dit-il, l'histoire qui a bouleversé ma vie, afin qu'ils apprennent la vérité de ma bouche et non pas à travers les ragots qu'on colporte à foison sur mon compte. » La suite de l'entretien évoque son arrestation le 31 juillet 1975, sa condamnation à 17 ans de prison pour trafic de drogue comme membre de la French Connection, et son évasion rocambolesque de l'hôpital de la Timone à Marseille, où il avait été admis à la suite d'une rixe à la prison des Baumettes. En fait, il avait demandé à un de ses co-détenus de le poignarder en évitant de toucher un organe vital. On l'avait donc transféré à l'hôpital, d'où des complices l'avaient fait évader. Cette cavale, elle va durer 10 ans. 10 ans au cours desquels il s'était installé en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où il avait exploité, il le dit aussi dans cette interview, une ferme, une mine d'étain et une usine de briques pour financer sa nouvelle vie à 10 000 kilomètres de la France. Et puis, le 3 août 1985, la justice ayant mystérieusement oublié de faire appel de sa condamnation pour trafic de drogue, celle-ci est annulée et effacée de son casier judiciaire. Alors il a attendu que sa condamnation pour évasion soit prescrite, et ensuite il rentre en Corse, la tête haute, et s'installe dans une luxueuse maison de la région de Sartène. Il raconte au journaliste de Corsica son retour et l'origine, selon lui, de sa réputation de parrain, je le cite. « J'avais appris, dit-il, à me méfier de tout ou presque, ma liberté mais aussi ma vie en avait dépendu, j'avais des ennemis et je devais me garder en permanence, mais en même temps, j'avais trouvé des amis et des vrais. Cela dit, quand vous baignez dans cette ambiance pendant 30 ans, vous ne percevez pas la façon dont vous avez évolué. Vous êtes ce que vous êtes devenu, un point c'est tout. Vous vous êtes forgé une mentalité droite parce que sinon vos appuis vous abandonnent et là vous êtes vraiment un homme mort. Et mes amis savent que je n'ai jamais trahi personne. J'ai toujours cherché, c'est la fin de l'article, à éviter les faux conflits et à arranger les rapports entre les gens. C'est peut-être ce qui m'a valu une réputation de parrain.
Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
Les invités de Café Crime, Jacques Folourou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde. Et Vincent Nouzy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maintenant journaliste indépendant, après avoir été, je crois, grand reporter à l'Express, hein, pendant pas mal de temps.
Ouais.
Et tous les deux, vous êtes les co-auteurs de ce livre, dont une nouvelle édition, comme on dit, revue et corrigée, donc actualisée, vient de paraître aux éditions Fayard, Les Parrains Corses. Et le sous-titre est clair, de nouvelles révélations sur la mafia corse. Alors, d'abord, tous les deux, je voudrais qu'on commente quelque peu ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est rare, non, Vincent Nouzy, un parrain qui prend la parole, pour dire d'ailleurs qu'il n'est pas un parrain. Hein.
Oui, quelque part, on ne sait pas si c'était une forme de défense ou de déclaration vis-à-vis soit de ses proches, soit peut-être aussi de ses ennemis potentiels. Une façon de
Décrire. De leur dire, voilà. Je suis retiré des affaires.
Non, là. Une façon de leur dire, je suis toujours là. Peut-être aussi. Et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ouais. Donc il y a toujours des messages directs, et puis il y a toujours des messages, on va dire, subliminaux dans ce genre d'interview, ouais, qui a été évidemment relu et corrigé, on va dire, jusqu'à la virgule près. Donc ouais, nous, quand on a lu et décortiqué cette interview, évidemment, on a essayé de la mettre en relation avec tous les éléments objectifs et factuels qu'on pouvait trouver à la fois sur l'histoire personnelle de Jean G, donc on va l'appeler Jean G,
ouais, ouais,
et puis évidemment sur le contexte criminel, on va dire, dans lequel il a évolué. Et ouais, on peut dire qu'il incarne au fond un personnage assez central qui fait une forme de bascule entre deux époques, ouais, du grand banditisme corse. Si vous voulez, la première période, c'est la grande période, on va dire, des parrains corses qui sont plutôt à Marseille, exilé à Marseille.
Ouais, c'est
les Guérini, ouais, c'est tous ces gens-là qui sont des exilés de Lille, et qui ont fait fortune dans des grosses villes comme Marseille,
ouais,
et sur une activité criminelle, d'abord le proxénétisme,
ouais,
puis un certain nombre d'autres activités de trafic, ouais, trafic de cigarettes, on en a parlé, qui a valu quelques règlements de compte, et puis des activités de trafic de stupéfiants, de trafic de drogue. Lorsque, effectivement, ce qu'on a appelé la French Connection était en fait une Corsican Connection, c'est-à-dire tenue par les grosses filières corses,
ouais,
à la fois parce qu'elles avaient des contacts aux quatre coins du monde et des bonnes relations, on va dire, avec la mafia sicilo-américaine.
Ah, donc ça, c'est le grand banditisme à l'ancienne.
Alors, c'est ouais, pas seulement à l'ancienne, c'est dans ce milieu que Jean G. Colonna a grandi, on va dire.
Oui, parce qu'avec sa mère qui travaillait au PTT, qui s'est installée à Marseille après la mort, voilà, de son père. Hein,
donc lui, c'est un jeune
sécurité,
qui,
on va dire,
à la fin des années 60 et au début des années 70, ouais, est très prometteur dans le trafic de stupéfiants. Et il participe à un très gros trafic entre l'Europe, ouais, Marseille, l'Amérique latine, ce qu'on a appelé les gros réseaux de la Pizza Connection, et puis l'Amérique du Nord. Donc environ 500 kilos d'héroïne qui ont été comme ça, voilà, transportés et transformés et vendus à la mafia italo-américaine. Donc ouais, il est au cœur de ce trafic. Ce n'est pas un de ses amis qui, par vengeance personnelle...
Oui, c'est ce que j'allais dire. Quoi. Bon, ça c'est sa version des choses.
Le dénonce, ouais, c'est un ensemble de repentis de passeurs qui ont été arrêtés aux États-Unis et qui livrent un certain nombre de clés sur le trafic et ouais, qui sont les commanditaires de ce réseau-là. Et donc, on a bien un homme qui est condamné pour trafic de stupéfiants. Alors, avec une bizarrerie juridique qui est donc le fait qu'il est condamné en première instance et qu'il n'y a pas de jugement en appel.
Oui, alors oui, une question que je me pose, Jacques Folourou, parce que votre livre fourmille d'informations, vous pouvez nous dire comment vous avez réuni autant d'informations, parce que ce sont des choses dont en général on ne parle pas.
Bon, c'est un travail de recoupement. C'est un travail, comme il le dit, comme Jean G. le dit lui-même dans son entretien, fort heureusement pour les journalistes qui essaient de faire leur travail, il y a un certain nombre de personnes qui parlent.
Ouais.
Et dans ces cas-là, c'est un travail, c'est vraiment un travail de bénédictin, c'est-à-dire que chaque information doit être coupée, digérée. Il y a évidemment une base documentaire policière, judiciaire, mais qu'il faut passer au filtre également d'une connaissance interne, soit du monde monde des voyous, soit du monde des nationalistes. Et là, on profite, si vous voulez, de cette micro-société qui est la société corse. C'est-à-dire que c'est une société qui est vraiment entremêlée, où vous avez dans une même famille un nationaliste, un voyou,
un polytechnicien,
un policier, un journaliste renommé, etc. Vous voyez.
Ouais.
Donc le travail, c'est un travail, il faut à la fois, et notre atout, si vous voulez, c'est à la fois la perspective, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille dessus,
ouais.
Et puis j'ai envie de dire aussi le recul. C'est-à-dire que en étant nous basés à Paris, en se déplaçant souvent en Corse et dans la région marseillaise, etc., où sont fortement implantés les Corses, on peut relier des histoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas le nez collé à la vitre, tout en étant à la fois précis sur les infos, en ayant une grille de lecture, voilà, parce qu'à la fois ça évolue très vite,
ouais.
Mais en même temps, voilà, les filiations sont connues, on arrive à relier des bouts, etc. C'est ce qui permet de raconter une histoire. C'est vrai que ça doit apparaître un peu aux auditeurs un peu exotique, cette espèce d'entretien donné par un personnage sorti de nulle part, etc.
Ouais.
Mais ce que faut bien comprendre que on n'a pas affaire juste à un personnage sorti d'un film, vous voyez, qui n'appartiendrait qu'au seul et unique univers de la pègre. C'est un personnage qui en effet était un des piliers de la French Connection. Donc c'est un des plus gros trafiquants de drogue qu'on ait eu en France à une certaine époque, d'accord,
ouais.
Qui à la suite d'une très longue cavale va se réimplanter, va revenir en Corse. Et là, c'est un personnage qui sera au carrefour de différents univers.
Mmh.
Il aura toujours, évidemment, un lien avec le monde des voyous,
ouais.
Mais il sera aussi connecté avec, j'ai envie de dire, le monde normal.
Oui.
Hein, donc le monde politique,
façon,
le monde politique local.
Il veut peser sur l'avenir.
Et c'est un chef de clan.
Corse,
c'est un chef de clan informel.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la mode méditerranéenne, sera à la tête, va être le référent, va être le juge de paix, va trancher les conflits, va intervenir pour de ci de là.
Alors on va revenir sur cette histoire passionnante, toujours avec cette idée, comme le disait Vincent Nouzi, là on est avec quelqu'un qui marque vraiment la bascule.
Parce qu'il revient en Corse.
Voilà, et parce qu'il revient en Corse, on revient donc sur tout cela en détail dans un petit instant, après une première pause.
Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
À la une de Café Crime aujourd'hui sur Europe 1, une enquête sur le grand banditisme et le système mafieux en Corse.
Oui,
Jacques Pradel.
Les parrains corses, hein, c'est le titre du livre qui vient d'être édité chez Fayard. Les deux auteurs sont avec nous. Jacques Folloroux, qui est journaliste au Monde quand il n'écrit pas des bouquins, avec Vincent Nouzi, son co-auteur. Ils en connaissent vraiment un rayon sur un monde qui est, alors comme le disait Jacques Folloroux il y a un instant, on a l'impression que c'est compliqué, mais quand on prend du recul et quand on n'a pas le nez collé à la vitre, comme vous dites, on commence à comprendre un petit peu les équilibrages, les guerres de clans, les guerres de succession. Vous dites, et alors c'est un livre, je le dis à ceux qui n'ont pas lu même l'édition précédente, d'abord qui est actualisée, ça on va en parler tout de suite, mais c'est un livre aussi qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé en Corse, on va dire ces 30 dernières années, parce que vous expliquez dans votre livre, tous les deux, qu'il y a eu une bascule, vous disiez dans le temps, puisqu'on parlait tout à l'heure des anciens Corses, de Marseille, d'ailleurs, etc. Ces gens-là, en général, ils revenaient, fortune faite ou pas, mais enfin, après leur vie, s'installer en Corse, où ils cherchaient de la respectabilité, à faire du bien autour d'eux s'ils avaient un peu d'argent, mais ils n'allaient pas braquer la banque du coin de la rue. Or, il y a une équipe de gens, et on les appelle peut-être par facilité l'équipe de la Brise de Mer, parce que je crois que c'était le nom d'un bistrot qui est fermé depuis bien longtemps sur le port de Bastia, et il y a une équipe quand même qui a changé la donne, Jacques Folloroux.
Oui, ce qui s'est passé au début des années 80, en quelque sorte. Avant, les parrains, faisaient carrière, les grands parrains corse,
voilà.
les Guérini, les Franchisi, etc., faisaient carrière plutôt sur le continent, Marseille, Paris, et puis à l'étranger, et ne revenaient que épisodiquement pour apporter un certain nombre de cadeaux à leur famille ou à leurs proches.
Ouais.
Et au début, il y a eu, en effet, un vrai basculement. Au début des années 80, la Corse a été, structurée, d'accord, au nord, par la Brise de Mer. Ce gang avec un fonctionnement très particulier qui lui a permis de traverser de façon relativement impunie 30 ans d'histoire criminelle jusqu'à aujourd'hui.
Mais en exerçant leurs activités sur l'île.
En étant en effet à demeure.
Des autres.
Ouais. Oui, mais on est tout en ayant un certain nombre d'activités ailleurs, jusqu'en Sibérie, jusqu'en Amérique centrale, jusqu'en Afrique, etc.
Ouais.
Donc vous aviez le Nord. Hein, qui était tenu par la Brise de Mer, une équipe de 9 à 10 personnes à l'origine, extrêmement unie, respectant un certain nombre de codes très rigoureux, qui dans le monde du banditisme français et européen constituait l'une des plus grosses équipes. hein, qui connu par les policiers, et le sud était tenu par un personnage dont on a déjà parlé, qui était Jean G, qui revient s'installer en Corse au début des années 80, et ainsi pendant 30 ans, vous avez à voir l'île. Parce que, pardonnez-moi cette petite incise, mais ce n'est pas que du folklore, ce n'est pas que raconter les pieds d'histoire de Riff-Riff, Fifi, Loulou, vous voyez. Il y a un côté comme ça folklorique qui peut apparaître comme ça, léger, mais c'est tout sauf léger, parce que c'est une emprise sur la société corse. C'est-à-dire qu'au-delà du paravent des clans corses traditionnels, du nationalisme milieu semi-ouvert, vous avez ce pouvoir, qui est un pouvoir occulte, et qui a une emprise à la fois sur la démocratie locale, sur les élus, et aussi une emprise sur l'économie insulaire.
Par le racket, par...
Absolument,
sur le réinvestissement de ce qu'ils ont gagné ailleurs.
Il y a du blanchiment de proximité, évidemment, mais vous avez aussi une emprise sur les marchés publics, vous avez une emprise sur la richesse corse. Et le paradoxe historique, c'est que ces deux bandes, ils ont un fonctionnement à la fois collectif par la brise de mer, et puis un fonctionnement plus féodal, clanique, avec Jean G. C'est-à-dire que ces gens-là vont s'installer à demeure en Corse et vont mettre la Corse sous une cloche au moment même où il y a enfin un peu de richesse qui vient sur l'île à la faveur des lois de décentralisation. De fer, etc. Au moment où la Corse accède enfin à une certaine forme de richesse, par le développement d'un peu de tourisme, par le transfert d'une forme de solidarité financière du continent vers la Corse, c'est à ce moment-là que ces gens-là vont finalement préver leur dîme et faire leurs affaires. Et si vous voulez, pour terminer, c'est que pendant 30 ans, la Corse a été structurée comme ça. Ils se sont bien dissimulés derrière les affrontements nationalistes et derrière les reproches faits à une Corse archaïque. Et là, ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, ça a été finalement la fin de cet équilibre, la fin d'un cycle, la fin de 30 ans d'équilibre criminel.
Voilà, d'où l'intérêt de faire une édition augmentée, revue et augmentée, hein, Vincent Nouzy, parce qu'il s'en passe des choses depuis 5 ans en Corse. Alors, on peut dire juste un mot quand même avant de revenir sur ce thème-là, un mot de la mort de Jean G. Colonna, puisque l'article c'était en 2002, et 4 ans plus tard,
il attendait,
1er novembre, il meurt.
Il attendait un ultime jugement sur une opération où il avait été condamné en première instance pour un abus
de biens sociaux.
Un emploi fictif dans la supérette de son épouse.
C'était assez bizarre par rapport à
l'envergure du personnage. Et on va dire presque bizarrement, ce cycle de vie et de pouvoir sur la Corse du Sud, se termine sur une route corse le 1er novembre 2006. Il a visiblement un problème cardiaque et il perd le contrôle de son véhicule. La voiture, évidemment.
Il fait plusieurs tonneaux, s'enflamme, mais on l'a sorti avant, il est mort. On a pensé à un attentat, évidemment.
Il y a eu effectivement des questions sur savoir si ce n'était pas plutôt une piste criminelle.
Ouais. Mais avec le recul, apparemment non.
Ce qui n'empêche pas que sa disparition, tragique, évidemment, après celle d'un de ses meilleurs amis, qui était un empereur des Jeux en Afrique, et puis avant celle d'autres personnes, finalement, conclut une forme de cycle sur l'étendue de son pouvoir en Corse du Sud qui s'amenuise et dont son héritage va faire l'objet d'une bataille dont on peut parler maintenant.
Oui, et absolument, dans un instant après une pause, mais avant, il faut dire que quand on parle de l'enterrement de Jean G. Colonna, il y a 500-600 personnes, il y a des gendarmes pour faire la circulation d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans ce tout petit village, et il y a des représentants de tous les gros groupes mafieux corses, hein, Jacques Folleron.
Alors c'est vrai
d'un
que...
mot là, et puis
les enterrements en Corse, ce sont des moments de vérité. C'est-à-dire que c'est là où les messages sont passés, c'est là où les reconnaissances d'amitié se font, et c'est là où on voit qui est lié à qui. Et c'est vrai que l'observation de cet enterrement a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la redistribution des cartes au sein du grand banditisme.
Avec une espèce de réunion au sommet dans l'arrière-salle d'un bistrot où on trouve des gens de la brise de mer, des gens d'un bar dont on va parler, le petit bar d'Ajaccio, et d'autres dont vous nous parlerez dans un petit instant.
Absolument.
Jacques Pradel sur Europe 1. Café Crime.
01 42 32 15 15 et europe1.fr.
Café Crime avec Jacques Folouroux, journaliste au Monde, Vincent Nouzy, qui a été grand reporter à l'Express et qui est journaliste indépendant maintenant. Tous les deux sont les co-auteurs de ce livre dont nous parlons, dont je vous rappelle le titre, Les Parrains Corses, chez Fayard, et une édition qui vient d'être revue puisque il y a les dernières informations datent du mois d'août 2008, dans ce livre. Alors, Jacques Folouroux, peut-être tout de suite, voyons Que s'est-il passé depuis 5 ans? C'est-à-dire, Jean-Jacques Colonna est mort en 2006, mais ça avait commencé à bouger un petit peu avant. Les 5 dernières années, il y a pas mal d'élimination de guerre de clans. Alors, est-ce que le mot de guerre de succession est un bon terme?
Je pense que même qu'on peut parler de... C'est la fin d'un cycle de 30 ans. Comme je l'ai rapidement ébauché tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a eu un équilibre criminel nord-sud, Brice de Mer, Jean-Gé, pour faire un peu rapide, qui a vraiment à la fois structuré la pègre corse, mais aussi a structuré la pègre française. C'est-à-dire que le grand banditisme corse a toujours été sur le devant de la scène du grand banditisme français et donc européen. C'est des contacts avec les Italiens, c'est des contacts avec les
mafias russes maintenant,
avec les Russes, bien sûr. Il y a une histoire qu'on raconte en long et en large dans le livre. Donc c'est la fin d'un cycle de 30 ans. Et c'est pour cette raison que ces 5 ans, le premier ouvrage, on l'a terminé en décembre 2003, et de 2004 à 2009, si vous voulez, ce qui va se passer justement, c'est la fin de cette histoire. Et la fin d'une histoire avec Jean G, en effet, qui meurt accidentellement, mais déjà son empire, son territoire était déjà attaqué. Et si vous voulez, pour faire en une phrase, c'est toujours compliqué, mais la grille de lecture tient toujours. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, justement. Ça demande beaucoup de travail. C'est pas une réédition simplement pour dire Tintin, Riri, Fifi, Loulou est mort, etc. C'est pas juste le listing. On donne du sens à tout ça. On l'intègre dans son environnement. Et si on pouvait en deux, trois phrases expliquer ce qui s'est passé en 5 ans, c'est la rivalité, si vous voulez, fratricide mortelle, d'accord, entre des figures historiques de la Brise de Mer sur fond de récupération de l'héritage de Jean G. Alors après, il faut rentrer dans le détail, etc. Mais globalement, c'est ça. C'est deux figures, Richard Casanova, Francis Mariani, qui sont sortis de cette règle sacro-sainte de collectif de solidarité de la Brise de Mer pour poursuivre des destins individuels, c'est-à-dire devenir eux-mêmes des parrains, s'exonérer des règles du fonctionnement en bande avant, etc. Et qui vont essayer de faire main basse sur justement l'héritage de Jean G, qui était déjà attaqué et qui est évidemment encore plus à saisir à partir du moment où celui-ci meurt.
Oui. Et maintenant, il y a eu quand même quelques attentats, quelques morts.
En effet. Donc il y a eu toute une série de règlements de compte, qui peuvent s'intégrer. Alors, il faut faire attention à une chose.
Dont des historiques de la Brise de Mer.
Absolument, absolument. Alors, après, il faut faire attention. C'est-à-dire que vous avez des assassinats d'opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vont régler des vieux comptes et profiter de ce cadre qui est connu de tout le monde pour régler des vieux comptes. Mais globalement, cette grille de lecture tient toujours. C'est-à-dire qu'on a vraiment un affrontement entre Francis Mariani et Richard Casanova, d'accord, chacun ayant des affidés, ayant des intérêts à défendre. Tout ça, c'est pour l'argent, hein. Faut bien se rappeler ça. C'est pas du code d'honneur, c'est pas. On fait un bouquin sur les parrains corses, mais il y a zéro fascination pour le monde des voyous. C'est d'abord quel est l'impact sur l'environnement, quel est le préjudice subi par la collectivité. Et donc, c'est Francis Mariani et Richard Casanova vont essayer de faire main basse sur justement le territoire de Jean. Et donc, il va y avoir une série de règlements de compte, évidemment, qui durent encore aujourd'hui.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, Vincent Nouzy, les policiers? Ils comptent les points?
Très longtemps, ils ont compté les points. Il y a eu des tentatives de l'État pour tenter de circonvenir la criminalité organisée en Corse. Alors, ils ne la regardaient pas toujours avec les bonnes lunettes. Il y a eu une obsession de l'État sur un certain nombre de thèmes, qui étaient évidemment les attentats, le nationalisme, les guerres fratricides entre nationalistes. Et donc, ça a probablement occulté une partie de l'émergence de ce pouvoir souterrain qui, comme le disait Jacques, était relativement homogène jusqu'à une période très, très récente. Donc, tandis que le pouvoir des nationalistes avait plutôt une tendance à se diviser et ils avaient plutôt une tendance à s'entretuer, eh bien, d'un autre côté, on avait ces pouvoirs structurants qui perduraient. Et donc, l'État savait courir après un petit peu tous les lièvres sans. Et puis, à chaque fois qu'on commençait vraiment à vouloir les attaquer, il y avait des petits coups de frein venant d'on ne sait où avec quelques protections, quand même.
Oui,
pour répondre à votre question, pour compléter ce que dit Vincent, on peut très, très, très précisément dater les interventions de l'État. Il y en a eu trois. La première, c'est 84. À l'époque, c'est Robert Broussard qui est préfet. D'accord? Il identifie évidemment le problème. Il a été nommé pour ça, le problème des indépendantistes. À l'époque, le FLNC est uni, très fort, une version ouverte, une version clandestine. Donc, mais il identifie évidemment dans le même temps la menace que fait peser le grand banditisme sur l'île et sur les Corses, qui sont les premières victimes de ça. Il prépare un plan, d'accord, qui était à la fois contre les indépendantistes et contre les voyous. Les voyous, il y avait deux volets. Il y avait un volet financier et un volet criminel. D'accord? Et il n'a pas eu de feu vert à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une mésentente entre, à l'époque, c'était Badinter, qui n'aimait pas les opérations cow-boy, qui voulait y associer Bercy, mais Bercy, à l'époque, c'était pas du tout sa culture, donc voilà. Donc Fabius dit, bah, attendez, on repousse ça. Il faudra attendre 2 ans, il fallait attendre une ouverture d'information judiciaire qui ne viendra que 2 ans après, et c'était trop tard. Première tentative avortée. La deuxième, on est en 84-86. La deuxième, il faut attendre 2000. 2000, c'est l'époque de Madame Guigou avec le procureur général Legras qui est à Bastia. Donc là, on est dans l'après-Bonnet. Et là, il y a tout d'un coup le rapport sur la criminalité organisée du procureur Legras. Ouais. Et bon, et qui va être, il y aura un rapport, il y aura un effort de l'État politique pour dire c'est un problème pour l'accord, c'est un problème pour la République, c'est un problème pour l'État. Mais bon, après le départ de Guigou, ce sera enterré avec l'arrivée de Madame Lebranchy qui dit ce n'est plus un problème. Et là, on arrive en 2009, troisième moment, mobilisation pour appeler ça. Ouais. Donc, avec la nomination de deux nouveaux chefs à la police judiciaire, avec, là, on est à un niveau intermédiaire, au niveau des chefs de la police judiciaire et au niveau des magistrats marseillais, avec ce qu'on appelle la GIRS, qui est une juridiction spécialisée contre le crime organisé, qui, là, sont en train de s'organiser pour faire remonter un certain nombre d'affaires et pour, justement, focaliser leur travail sur le problème du crime organisé. Ouais. Trois fois, depuis 84, on est en 2009, c'est pas vraiment considéré comme un problème par l'État.
Alors, les parrains de Corse, combien de divisions? On répond à cette question dans un tout petit instant.
14h, 15h, Café Crime sur Europe 1. Jacques Pradel.
On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à la mafia corse, un système qui s'abrite derrière le paravent du nationalisme et de la protection d'amis haut placés, Jacques Pradel.
Mais oui, pourquoi vous me regardez comme ça?
Ah, pas du tout, non, pas d'accusation.
Décryptage, donc, et réponse aux questions que vous venez de poser, Julia, avec mes deux invités, donc Jacques Folloroux et Vincent Nouzi. Justement, Vincent Nouzi, un mot sur, alors, je disais les parrains, combien de divisions? Voyons la division, ou les divisions maintenant, au sens propre du terme, de la Brise de Mer. Comment naît cette bande qui va prendre le contrôle de la criminalité d'abord dans la Corse du Nord, et qui va avoir la spécificité dont on parlait tout à l'heure, qui est de s'exprimer, si j'ose dire, entre guillemets, sur le sol corse, et de trouver, de prendre la main mise sur les machines à sous, sur les raquettes, de réinjecter de l'argent dans le circuit économique, etc. D'où viennent-ils? Parce que j'ai découvert dans le livre, c'était eux les vrais postiches.
Bon, au début, c'est plutôt des gens de pas forcément de mauvaise famille, on va dire.
Oui.
C'est ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire le tissu social corse peut donner naissance dans une même famille à divers destins. Donc, il y a des gens de familles aisées, des fils de famille qui, au début, à la fin des années 70, au début des années 80, commencent à se structurer, mais plutôt, vous savez, c'est ce qu'on appelle dans le capitalisme l'accumulation primitive du capital. Il faut bien commencer par accumuler un peu d'argent sur des coûts. Ouais. Et donc, ça commence en fait par le braquage. Des braquages en Corse. Il y en a en Corse, mais il y en a à Neuilly-sur-Seine.
Il a mal tourné d'ailleurs.
Il y en a dans la région parisienne. Il y en a y compris à l'UBS à Genève.
À Genève, voilà.
En 1990, un des plus gros coups avec quand même près de 20 millions d'euros de butin dont on n'a jamais retrouvé la trace. Ouais. Donc, en fait, ils commencent par le braquage. Ouais. Et puis, très vite, ils vont avoir accumulé un capital suffisant qu'ils vont réinjecter dans diverses activités.
Et un mot sur ces premières activités. Donc, effectivement, avant les postiches de Belleville, ils rentrent dans les banques avec des postiches, avec des fausses barbes, etc. Ils ont deux équipes, quoi. Une équipe, justement, pour prendre le contrôle de la banque, par exemple, et une équipe qui va faire les coffres.
Oui, donc c'est l'une de ces incongruités de l'histoire criminelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le grand public connaît surtout l'équipe de Belaïch, etc., sur les postiches de Belleville, alors que finalement ceux qui ont ramassé sans doute 2 à 3 fois plus d'argent, qui ne se sont jamais fait arrêter et qui procédaient exactement de la même manière et qui écumaient les banques de la France entière, c'était en effet l'équipe d'équipe de Corse qui mélangeait évidemment les Corses de la Brise de Mer avec des associés avant tout marseillais et qui ont en effet mais avant de faire des braquages, je veux dire, cette équipe de qui sont ces gens de la Brise de Mer. Vous avez un personnage donc en effet qui à l'époque était le gérant de la Brise de la dite Brise de Mer qui était un bar sur le vieux port de Bastia,
qui n'existe plus, pas la peine pour les touristes là, c'est pas la peine de chercher la Brise de Mer.
Alors
s'ils
voient le Méditerranée, ils comprendront que c'était là où se trouvait la Brise de Mer. Et donc il y a Monsieur Castelli qui était donc un peu le parrain qui avait 10 ans de plus que la plupart de ces jeunes de la Brise de Mer qui tenait ce bar.
On joue au poker dans le fond. voilà, avec un petit resto à côté.
Il a deux neveux, hein, ouais. Il a deux neveux qui sont les frères Santucci, ouais. Et qui sont amis avec d'autres jeunes. Alors, qu'est-ce qui les réunit, ces gens-là? C'est pas du tout une espèce de rupture avec la société. Ils sont pas, voyez, dans une espèce de revendication sociale, de vengeance sociale. Ouais. Pas du tout. Vous avez un fils de notaire. Vous en avez un, Georges Chiatelli, par exemple, dont l'un des grands oncles a été gouverneur du Congo à l'époque du général de Gaulle. Vous avez un fils de comptable. Vous avez un, enfin bon, voilà. Donc, ce sont les gens qui sont insérés socialement. Et qu'est-ce qui va les réunir, finalement? C'est le goût pour la marginalité. C'est la fascination pour la violence aussi, hein, pour une vie qui sorte de l'ordinaire. Ouais. Et ces gens-là, ils vont d'abord commencer par se faire un peu d'argent. Alors c'est quoi? C'est on commence de la même manière par les machines à sous. Ensuite, on va servir d'homme de main. Après, on va en effet faire des braquages. Et va y avoir ce moment clé dans leur histoire criminelle à eux, 84-86, où ils vont passer, si vous voulez, du stade relativement primaire du banditisme. C'est-à-dire le bandit qui ramasse de l'argent par différents canaux et qui va l'investir de façon très très caricaturale. Donc, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là où généralement la justice leur tombe dessus. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Comme justement la justice n'interviendra pas à ce moment-là, ils vont passer ce cap qui est toujours sensible pour les voyous, et ils vont arriver à un niveau beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'ils vont blanchir leur argent de façon différente, ils vont se sophistiquer, ça va devenir beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus, ils vont complexifier justement leur mode de fonctionnement, avec des appuis, avec des aides, ils vont réussir à mettre à distance l'appareil judiciaire et policier grâce à la corruption, parce que c'est l'une des explications aussi qui est souvent minimisée, mais la force finalement de la Pègre Corse, qui fonctionne de façon de type mafieux, c'est un organisme de type mafieux. C'est pas la mafia, mais ce sont des pratiques mafieuses. C'est-à-dire qu'il y a un entrisme. Ils sont pas dans un coin isolé du monde. Ils ont des relais. C'est ce qui leur permet justement d'être informés. Ça leur permet de tenir à distance la police et la justice, et qui leur permet de traverser ces 30 années. Et donc en effet, ils vont arriver à la fin des années 80, au début des années 90, à faire des coups fameux, qui vont en plus participer de leur légende, comme en effet le coup du BS, comme la malle du vol UTA.
Attendez, stop. Raconte ça deux secondes, faut prendre deux secondes. Ça c'est extraordinaire. C'est des billets réformés de la Banque de France. De temps en temps, la Banque de France apatrie des billets usagés, quoi. Et donc il y en a, je sais plus combien de centaines de kilos d'ailleurs, qui sont dans la soute d'un appareil. Hein. Et puis là, il y a des gens, des Corses aussi, qui prennent ce vol pour aller à Paris. Et il y en a parmi ceux-là, il y en a un qui a une grosse valise qui pèse au minimum 70 kilos. Quoi. Puis alors, quand l'avion arrive à Orly, les gens de la sécurité s'aperçoivent que l'argent a disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le braquage, il n'y a pas eu de braquage en plein vol. L'argent était trop sécurisé avant d'arriver à l'aéroport pour qu'on bon. Et à la place des billets, il y a des vieux cartons, des bouts de, je sais pas, de journaux, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Ce qui s'est passé, c'est que, en effet, lors de ce même vol Bastia-Paris, quelqu'un a en effet enregistré un bagage dans lequel était en fait glissée une personne assez souple, hein, et qui a voyagé dans la soute qui devait être pressurisée, j'imagine, et donc qui a profité de tout le temps de vol pour transvaser dans d'autres bagages qui étaient là, et sur le tapis des bagages, voilà, les gens ont récupéré à la fois le contorsionniste et puis le magot.
Ça compense, parce que là on est dans l'anecdote, mais enfin votre livre nous apporte aussi un certain nombre d'anecdotes formidables. Ça compense le gars qui avait convoyé une valise avec je sais plus combien de dizaines de kilos d'héroïne à Paris, et qui s'est trompé en reprenant son bagage à Orly. Il a laissé l'héroïne.
Mais là, la leçon de
sur le tapis, il est parti avec le bagage de quelqu'un d'autre. Quoi.
La leçon de cette histoire aussi, et on le retrouve dans un tas d'autres affaires et de braquages et d'autres affaires, c'est-à-dire que l'un des principes de la ruse de mer, c'était de ne faire que des coups donnés. C'est-à-dire qu'ils ne se lancent... Ils ne se lancent jamais dans des coups à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils vont sur des affaires sur lesquelles ils bénéficient d'informations qui viennent de l'intérieur. D'accord. Donc que ce soit des braquages de banque, que ce soit ce type de braquage un peu sophistiqué. Ouais. Donc c'est ce qui fait leur force. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'ils seront difficiles à attraper. Et on revient justement à leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils ont des antennes, ils ont de quoi payer des gens pour avoir des informations. Ouais. Voilà, donc c'est un système, c'est une organisation.
Vous parliez du braquage de la banque de... Non, mais de la banque de Neuilly. Là, c'est un défaut d'information. Oui. Je crois qu'il y avait au numéro 2 de la banque était un aristocrate qui avait certaines amitiés avec des gens de la prise de mer. Sauf qu'il n'était pas au courant d'une chose, c'est qu'il y avait un sismographe ou un sismo, je sais pas quoi, là.
C'est un système antisismique.
Un système antisismique qui s'est déclenché et ils se sont fait pincer, quoi. Ouais.
Là, il y a l'une des pires informations. Il y a certains membres du commando, là, qui justement ont été attrapés parce qu'ils n'ont pas voulu se défaire des sacs bourrés de lingots et qui n'ont pas voulu les lâcher.
Ils ils couraient avec, c'est très lourd, hein, des lingots pour courir, pour échapper à la police.
En revanche, pour l'UBS à Genève, il y a bien des informations venant de l'intérieur. Ouais. C'est ce qui va permettre de faire un de leurs plus gros coups. Je répète, 20 millions d'euros d'un seul coup, si je peux dire.
Il y a eu un procès et la personne qui était accusée était innocentée.
Il y a un appel, je crois, qui est en attend toujours. Mais il y a un des personnages qui a été présenté comme justement l'un des cerveaux de ce casse qui donc s'appelait Richard Casanova et qui poursuivi dans cette affaire pour être probablement au moins au minimum interrogé a préféré prendre une cavale. Il a donc entre 1990 et puis 2006 il est en cavale. Donc on a l'une des plus longues cavales d'un grand voyou corse en fait. Alors c'est une cavale assez étonnante parce que visiblement il fait des affaires, il a des contacts au plus haut niveau avec dans des services divers en Afrique, et il connaît beaucoup de monde. Il a paraît-il un logement pas très loin du ministère de l'Intérieur et il est vu assez souvent dans différents endroits. Mais il est en cavale officiellement.
Officiellement.
Et c'est une personne avant son décès qu'on a justement vu, avec qui on a parlé, et qui était justement un peu un personnage à la Jean Gé, c'est-à-dire qui était à la fois connecté toujours avec le monde des voyous, mais qui était aussi au carrefour du monde des affaires et du monde de la politique, notamment proche justement du clan de la sphère Pasqua. Et ça nous a à la fois permis de décrypter un certain nombre de choses, tout le temps évidemment, en prenant bien garde de ne pas tout croire.
Okay. Il est mort dans son lit?
Non, il s'est fait tuer à Porto Vecchio en avril de 2008.
Ah, je me disais aussi. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de l'émission et je vais vous demander dans un tout petit instant de nous dire maintenant quelles sont les tendances, on va dire, actuelles du grand banditisme en Corse.
20h, 22h30 sur Europe 1.
Alexandre Delperrier fait l'actualité sportive.
Dans tous les stades, sur tous les terrains.
Football, tennis,
Formule 1, rugby.
À chacun son sport.
Europe 1 Foot et le club sport Europe 1 avec Alexandre Delperrier. C'est tout à l'heure, dès 20h.
Grâce à Manae, les désagréments liés à la ménopause sont vraiment atténués. Avec Manae, je vis mieux, en pleine sérénité, en toute sécurité. D'origine naturelle, Manae, des laboratoires NutriSanté, est sans hormones ni soja. Et Manae reste efficace, même après plusieurs années d'utilisation. Pour tout savoir, cliquez sur manae.fr, en vente en pharmacie. Pour votre santé, bougez plus.
Découverte, massage, mini Club Med. Votre famille va aimer cette semaine à Marrakech, la Palmeraie.
Envolez-vous au Club Med. En ce moment, le vol est à 1 euro pour la deuxième personne des 4 ans. Réservé avant le 28 juin au 0810 810 810, prix d'un appel local. Offre soumise à condition. Club Med, tous les bonheurs du monde.
Mon épargne est fatiguée, docteur. Anxieuse et raplapla.
On va lui donner un bon 4,40.
4,40 ?
4,40% net garantie et zéro tracas comme l'assurance vie MMA. Votre épargne est 100% garantie et vous rapporte 4,40% net jusqu'à fin 2009 pour tout versement avant juin 2009.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Café Crime.
Et bien, on y retourne. Et nous sommes toujours avec les journalistes Jacques Folleroux et Vincent Nouzil sur Europe 1. Ils nous parlent du grand banditisme en Corse, Jacques.
Ouais, il nous reste à peine encore quelques minutes. C'est un sujet absolument passionnant. Je renvoie évidemment tout le monde à ce livre. Je ne dirais pas que c'est un pavé, parce qu'en général, un pavé, c'est illisible. C'est un livre qui se lit vraiment comme un roman, en même temps qui est, comme le disait Jacques Folleroux tout à l'heure, un livre de réflexion, de décryptage, et pas uniquement une collection, évidemment, d'anecdotes. Même si les anecdotes sont quand même assez savoureuses. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas parlé du petit bar, vous n'avez pas parlé des bergers de je ne sais plus où, là, qui sont, je crois, maintenant des groupes qui émergent et qui sont en train de... Alors, qui prend le contrôle? Est-ce que la prise de mer, c'est fini? Alors, qui dirige maintenant en sous-main le banditisme en Corse?
Alors, avant même de faire le constat justement du déclin du vrai déclin de la Brise de Mer, ce qui est un événement important dans, enfin, on regarde de l'histoire criminelle, et avant même le décès accidentel de Jean G, on avait vu déjà émerger, parce que ce banditisme est toujours en perpétuelle évolution, vous avez toujours des gens, comme on dit en Corse, des gens plus capables que des gens qui étaient capables, donc il y a toujours plus capable que soi, vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs capable, on peut imaginer tout ce que ça laisse, tout ce que ça subodore. Mais alors, en effet, sur Ajaccio, sur la Corse du Sud, derrière l'un des piliers, l'un des lieutenants de Jean G, qui s'appelait Ange Marie Pilozzi, je dis qui s'appelait parce que lui-même a été assassiné. Ouais. On a vu justement émerger une bande, la bande du Petit Bar, comme quoi souvent dans le monde des voyous, on prend le nom du bar où on se retrouvait, qui doit être le
lieu de rendez-vous,
le lieu essentiel de socialisation.
C'est un petit bar à Ajaccio, ça.
Sur cours Napoléon. Et alors donc en effet, ces jeunes-là qui ont montré quelques aptitudes au sens criminel du terme, ont en effet sans doute suivi un peu un certain nombre d'indications d'Ange-Marie Michelotti. Et alors, c'est comme ça que se reforme un peu des, si vous voulez...
Mais c'est une nouvelle génération, ils ont 30 ans.
Ouais. Et donc, qui ont mis en coupe réglée Ajaccio, donc c'est du racket, ce sont les assassinats, c'est le trafic de drogue, hein, parce qu'il y a aussi cette espèce de mythe sur le voyou corse, ne touche pas à la drogue, hein, donc ça c'est un fait partie du mythe, comme Jean G qui essayait d'installer pour l'histoire une espèce de vision totalement mythifiée de ce qu'il était réellement. Donc le petit bar, si vous voulez, donc se met au service de Jean G et de la sphère Jean G et par le biais d'Ange-Marie Michelozzi. Quand vous avez également une bande, alors là c'est pas la même génération, c'est en effet ce qu'on appelle les bergers de Venzolasque. Donc là on est en Haute-Corse.
C'est un joli nom.
Les bergers de Venzolasque. Donc là on est en Haute-Corse, on est sur le territoire de la Brise de Mer, mais ce sont des gens donc qui sont il y a un personnage qui sort un peu du lot de cette bande qui est Anchoussin Federici. Là on est face à des gens qui ont une quarantaine d'années, qui ont un passé à la frontière entre le nationalisme, enfin les équipes de choc du nationalisme, pas des idéologues, les équipes de choc du nationalisme et puis le monde, le droit commun, et donc dont un certain nombre ont été en prison pendant un certain nombre d'années, qui reviennent à partir de 2004 sur le terrain corse, et là qui revendiquent un certain nombre à la fois d'affaires, et donc là ils vont, si vous voulez, ils vont vouloir devenir eux aussi des parrains corses, donc ils vont investir ils vont racketter en Corse, ils vont investir dans des jeux à Paris, ils vont même vouloir investir au Sénégal dans des casinos. Donc là, en effet, on va en parler. Et comme tout est souvent lié chez les Corses, donc on va pouvoir faire un lien entre ces bergers de Venzolasque et puis le cercle du Concorde à Paris, la tuerie des marronniers à Marseille. Ouais. Voilà, il y a un ménage. Ouais. Et c'est pour ça que la pègre corse fonctionne vraiment comme une organisation.
Ouais. Vincent Nouzi, qui va gagner?
Bah, pour l'instant, on sait...
Est-ce que quelqu'un est en train de gagner?
On sait très bien que le système sur lequel la Corse a vécu donc est en train de s'effriter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'organisation criminelle en Corse. Ça, il faut vraiment le dire et le répéter. Au contraire, le terrain est simplement beaucoup plus instable. Vous avez différentes générations qui s'affrontent. Vous avez donc ces trentenaires, ces quadragénaires, des anciens qui veulent peut-être encore régler des comptes. Donc le terrain est mouvant, on ne sait plus trop qui va vraiment dominer le terrain. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a du monde.
De toute façon, il y aura toujours du monde.
Alors, il faut bien en plus se dire que ça ne concerne pas que la Corse. C'est vraiment quelque chose dont les enjeux, par exemple, dans ce qu'on appelle l'héritage de Jean G, ou un certain nombre d'intérêts de la Brise de Mer, ça rayonne très loin. Ce sont des gens qui ont des piliers en Afrique, qui ont des affaires en Amérique latine. Donc ce sont pas seulement uniquement une bagarre pour savoir qui va contrôler la paillote du coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de savoir que ça va jusqu'au cercle de joue à Paris, ça va jusqu'au bar d'Aix-en-Provence ou de Marseille. Donc il y a des enjeux criminels qui dépassent largement le cadre insulaire.
Il nous reste une petite minute, Jacques Follot.
Je vais faire court, juste pour dire que si on sort...
Je voudrais savoir que la prochaine édition revue est augmentée.
Si on sort juste une seconde de notre rôle strict au sein d'un sud journaliste, c'est vrai que là il y a historiquement une chance inédite à la fois pour la Corse et puis pour la société corse et puis pour l'État. C'est-à-dire qu'il y a en effet il pourrait profiter de cette déstructuration momentanée, de cette fragilisation du monde criminel corse pour pouvoir justement essayer de reprendre un peu le levier sur cette île, essayer de desserrer l'étau criminel qui a été
Vous pensez qu'il peut y avoir une chance là, enfin,
mais je pense que à la fois la Corse et puis l'État devraient saisir cette chance là et espérons qu'ils le fassent.
D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Donc si vous prenez écoute maintenant, c'est trop tard. Il faudra aller voir le livre et le lire. Les parrains corses, c'est le livre de Jacques Folouroux et de Vincent Nouzi qui vient de me reparaître donc chez Fayard. Si vous voulez comprendre quelque chose, eh bien lisez ce livre. On peut pas dire mieux. Et si vous voulez comprendre quelque chose à la radio, vous devez écouter Faustine Bollard tous les après-midi.
En toute humilité, bien sûr.
Bonjour Faustine.
Bonjour Jacques. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment reprendre nos vies en main. Rien que ça. En cette période anxiogène, est-ce qu'il faut imaginer un plan de relance pour nos existences? C'est la question que nous allons vous poser. Est-ce que vous avez une recette du bonheur, spéciale crise? Quelles sont vos priorités absolues en ce moment? On va y réfléchir ensemble, notamment avec Éric-Emmanuel Schmitt, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant cette émission. 01 42 32 15 15 quand même pour tous les témoignages.
01 42 32 15 15, je vais parler en même temps qu'elle. On se retrouve dans un petit instant après le flash.
Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.